Alors, donc on est dans la paracha Tetzavé. Paracha Tetzavé, c'est page 199 dans le Chumash. Non, c'est le Sidour. Tiens, Raphaël, donne le Sidour. Voilà, après on se donne un autre Chumash. Page 199.
Excuse-moi.
Alors, donc on commence au début. Va ta Tetzavé et Bnei Israël. Et on va faire un petit peu une revue de Mefarshim, si on peut appeler ça comme ça, autour du premier verset de la paracha de cette semaine. Vous verrez que c'est un verset qui nous cache énormément de messages, comme on va pouvoir développer Bezrat Hashem. Alors on va le lire ensemble. Donc dans la paracha la semaine dernière, la paracha Terouma, on a parlé de la construction du Mishkan. Donc on l'a construit, d'accord. Donc le bâtiment, Bouygues, comme il m'a dit la semaine dernière, d'accord, c'était le bâtiment, comment on l'a construit, etc. Et là dans la paracha de cette semaine, là on va parler du mobilier. Quand, là, le mobilier, c'est un peu plus les Juifs. Les Juifs, c'est le mobilier. Voilà, c'est Ikea, là. Là, on est dans Ikea. Oui, en passant, puisqu'on parle d'Ikea, je vous dis,
c'est pas Ikea, tu es
pas Ikea. Ikea en Israël. Le grand Ikea qui est en Israël a pris feu ce Shabbat.
Non.
Et bon, il leur faut au moins entre 6 mois et 1 an pour le rouvrir. Et ce qui était extraordinaire, c'est que le patron, enfin le responsable de Ikea là-bas en Israël, il a dit c'est le Shabbat qui nous a sauvés. Parce que c'est évident que, il a dit tel que le feu s'est présenté, s'il y avait des gens dans le magasin, il y aurait eu des morts, Dieu préserve.
Ah, oui.
Parce que, vous savez, vous connaissez le magasin Ikea, très difficile à sortir.
C'était un Shabbat où il a pris feu, et le Shabbat
il est
très
dur à
faire. Il faut connaître les raccourcis parce qu'il ne vous les donne pas les raccourcis.
Non, il vous donne pas, il vous donne ni les raccourcis ni le plan.
Bien sûr.
Qui veut perdre, rendre visage chez papa.
Donc il y a eu, voilà, comme ça il a dit c'est un S. Bon, quoi qu'il en soit, donc Véata, tu savais, on va parler maintenant de la construction.
Il y a une légère pente dans tout le magasin, une légère pente, qui fait que ça te fatigue.
Qui fait que ça te fatigue, peut-être.
Il y a une légère pente.
Alors on y va. Ve'ata tetzave et bnei Israël. Donc Akadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu et il lui dit, toi Moshe Rabbeinu, tetzave et bnei Israël, tu vas ordonner et bnei Israël. Donc il va donner un ordre. Alors vous remarquez ici, déjà l'expression particulière. D'habitude, c'est soit Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de transmettre un message, soit il lui dit, ça va être Bnei Israël. Ça veut dire, bon, donne l'ordre de Bnei Israël. Là, on a l'impression que Dieu appuie. Il lui dit, Ve'ata, tetzavé et Bnei Israël. Et toi, tu vas ordonner au Bnei Israël. On a l'impression que qui c'est qui ordonne? C'est Moshe. Non, mais là, on dit, Dieu dit à Moshe, et toi, tu vas ordonner. Et toi, tu vas ordonner. Ça veut dire que c'est lui, alors que c'est faux. Il fait que répéter un message.
Non.
D'accord?
C'est un changé de mission, mon cher.
D'accord, j'ai compris. Le Ramban... Attendez, deux secondes. D'ailleurs, Nachmanide nous fait remarquer que dans la paracha, dans tout ce qu'il y avait dans la paracha Terouma, et même dans la suite de la paracha Tetzavé, il n'y a pas d'ordre. Je ne sais pas comment vous dire. Dieu ne dit pas à Moshe Rabbeinu, tu vas donner l'ordre de venir Israël. Il dit, tu feras. Tu feras ci, tu feras ça. On ne dit pas, hein, comme ici, et toi, tu vas donner l'ordre qu'on fasse. Parce que c'est évident que c'est Dieu qui donne les ordres. Et là, le seul endroit dans lequel on a le terme, Ve'ata, Tetzavé, et toi, tu vas ordonner, c'est à propos de l'huile pour la menorah. Alors, une explication intéressante que... Bon, d'abord, on va finir le verset. Pas Ve'ata, Tetzavé. Pas la même chose. Non, ça n'a rien à voir. Ça veut dire ordonne. Ve'ata tetzavé, c'est et toi tu vas ordonner. Quand on appuie sur le et toi tu vas ordonner, ça veut dire que qui c'est qui ordonne, c'est toi. C'est une question du midrash, hein, mais bon, on va développer. Alors, ve'ikru elecha shemen zaitzar. Donc Dieu ordonne Moshe Rabbeinu, il lui dit tu vas donner l'ordre de Bnei Israël, mais c'est pas sur ça que je vais m'arrêter. Ve'ikru elecha shemen zaitzar qui t'amène de l'huile d'olive pure. D'accord. Donc je vous prépare un peu aux questions qu'on va voir dans la suite. De l'huile d'olive pure. Qu'est-ce qui est pur? C'est l'huile ou l'olive?
L'huile.
C'est l'huile qui est pure.
Hein?
Logiquement,
c'est de l'huile d'olive pure, d'accord? Ou de l'huile d'olive pure?
C'est de l'huile d'olive.
Ah, mais c'est Rachid qui se passe. Attention, c'est une marloquette entre Ibn Ezra et Rachid, on va en parler.
L'huile d'olive pure.
D'accord? Bon, je vous donne des petits indices. Alors, bon, dites comme ça, pas tout le monde est d'accord avec vous. Katit la Mahor, donc concassé, et avec cette huile-là, bien sûr, on va faire quoi? Le luminaire, donc la menorah. Léalot Nertamit, pour amener une bougie qui sera perpétuelle. Alors, en vérité, elle ne sera pas allumée de manière perpétuelle. Mais bon, comme on expliquera, dans Rashi, mais ça, on n'aura pas le temps de le faire. C'est que quelque chose qui est récurrent, qui revient tous les jours, on appelle quelque chose de perpétuel. Par exemple, tous les matins, je fais ma tefila. Comme c'est récurrent, donc ça veut dire que je suis en train de faire ma tefila de manière perpétuelle, même si je fais pas la tefila toute la journée. Voilà pourquoi la Torah, lorsqu'elle parle de la menorah, sachez-le, est allumée la nuit. est allumée le soir, elle devait rester allumée toute la nuit, pas la journée. La journée, bon, si ça restait, on l'a laissé s'éteindre, mais pas la journée. Et pourtant, on l'appelle Tamid. Pourquoi on l'appelle Tamid? Puisque c'est une bougie qui est perpétuelle. Alors, la question déjà, donc je vais faire déjà une petite revue.
Parce que dans les synagogues, l'air Tamid, elle est jamais
oui, éteinte. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, en tout cas, Tamid dans le sens ici, c'est pas perpétuel. Ça peut, parce que ça peut pas être perpétuel, parce qu'on devait l'allumer. Si on l'allume, forcément, c'est qu'elle s'est éteinte. On est d'accord.
On a parlé tout à l'heure à Hanouka.
Non, on pouvait rajouter du combustible.
Ah ben non, on dit que le Kohen, tous les jours, il devait l'allumer. S'il l'allume, ça veut dire qu'elle est éteinte. Bah, c'est logique, quoi.
Quand on dit la Hanouka qui a resté 8 jours allumée,
toutes les nuits,
on parlait de...
Là, c'est autre chose. D'accord, c'est une autre question. La Hanouka, c'est un autre miracle. Alors, donc, je vais vous expliquer ce qui explique d'abord le Ramban. Le Ramban, Nachmanide, il nous fait remarquer. Nachmanide, il nous fait remarquer, il nous dit que, d'habitude, la Torah nous donne, la Torah donne, quand elle donne un ordre à Moshe Rabbeinu, surtout en ce qui concerne le Mishkan, elle lui dit, Ve'asita, et tu feras. Là, elle lui dit, et toi, tu vas ordonner. Pourquoi on donne cet ordre-là? Alors, le Ramban a une approche très intéressante. Il dit, c'est très simple. Il dit, où les Bnei Israël se trouvent actuellement? Où ils sont maintenant, quand on leur parle? Ils sont dans le désert. D'accord? Dans le désert, il n'y a pas d'olive. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'arbres desquels on peut
prendre d'olivier. Il n'y
a pas d'olivier. D'accord? Donc, ça veut dire que si on veut des olives fraîches, il n'y en a pas. La manne peut avoir le goût qu'on veut, mais il n'y a pas d'olives fraîches. On est d'accord, on est dans le désert. Bon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va aider le développement du Ramban. Donc, il dit, ça veut dire qu'on devra utiliser de l'huile toute prête, qu'on a amené avec nous. L'huile d'olive, bon, c'est possible que des gens l'ont pris avec eux. Alors, explique le Ramban. Il dit, avec ça, on comprend pourquoi Dieu demande à Moshe Rabbeinu à ce qu'on lui amène l'huile d'olive à lui. Alors que qui c'est qui va allumer la menorah? C'est Aaron. Pourquoi il demande à Moshe Rabbeinu qu'on lui amène l'huile? Et à quoi il sert Moshe Rabbeinu? C'est la bureaucratie, ça. Tu l'amènes à Moshe pour qu'il donne à Aaron. Pourquoi ça sert? Alors il dit, Nachmanide, c'est très simple. Il dit, parce que Moshe Rabbeinu avait une expertise pour savoir, quand tu lui montres une huile, il pouvait te dire, bon, cette huile elle est propre, cette huile elle est pas propre. Parce que le problème, dit Nachmanide, c'est que là, on n'a pas fait quand on était dans le désert, on n'a pas fait toutes les étapes du procédé pour préparer de l'huile. On devait prendre de l'huile déjà existante. Maintenant, les gens, ils ont déjà utilisé cette huile, ils ont dû faire, je sais pas, de la friture, je sais pas ce qu'ils ont dû faire avec, donc va savoir si elle est propre ou pas. Donc il faut quelqu'un qui check, qui vérifie. Qui vérifiait? Moshe Rabbeinu.
Comme ça, il y a une expertise, Moshe.
Pourquoi
il aurait eu une expertise?
Ah, d'accord, bonne question. Vous avez raison. Mais là, on comprend que c'était pas seulement qu'on préparait de l'huile, on ne préparait pas l'huile. Dans le désert, on n'a pas préparé l'huile, nous dit Nachmanide. Dans le désert, on a fait simplement qu'utiliser de l'huile qui était déjà existante. Et autre chose, avec ce qu'on comprend d'après ce Ramban, c'est que vous savez que dans la parasha Terouma et Tetzavé, Dieu donne uniquement les ordres pour la construction du Mishkan, et donc pour, comme j'ai expliqué, pour le mobilier. Mais concrètement, on l'a pas encore construit. On va le construire dans combien de temps? On va le construire seulement, d'accord, au moins 80 jours plus tard. Quand on va arriver dans la paracha Vayakhel. Vous remarquerez dans la paracha Vayakhel, on répète tout ce qu'on a dit ici, parce que là c'est les ordres et là-bas c'est l'exécution. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la majorité des choses qu'on a rassemblées pour le Misbéach, d'accord, pour l'autel, donc ça veut dire par exemple la farine, etc., on les a rassemblées dans la paracha Vayakhel ou dans la paracha Kitissa. Une des seules choses qu'on a rassemblées et qu'on a ramassées maintenant, alors que je veux dire c'est pas encore d'actualité. On parle de l'huile pour la menorah alors que le Mishkan n'était pas encore construit, c'était l'huile. Pourquoi? Parce que l'huile peut rester, l'huile a une conservation qui est très longue. Je sais pas combien de temps ça peut tenir de l'huile. Ça tient très longtemps.
On le voit avec les Nershel Khankal.
Ouais, combien de temps ça tient?
3 heures, 4 heures.
Non. Je parle de conservation.
Conservation.
Une année, en
VLD,
plus, à mon avis.
La VLD.
À mon avis, il n'y a pas de durée.
Il y a des vieilles huiles, on peut acheter des huiles anciennes.
À mon avis, il n'y a pas de durée. En tout cas, Nachmanide dit que c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, il leur a dit l'huile. Il leur a dit la farine, si on la prend maintenant. D'accord? Parce que, attendez, je vais vous dire où on était là maintenant.
La lumière.
Là maintenant, on va situer un petit peu. D'accord?
L'huile nous ramenait d'Égypte alors.
Oui, l'huile nous ramenait d'Égypte. C'est comme ça qu'il dit Nachmanide.
Comment elle peut être saine? Elle peut être sainte, pure.
Non, d'être pure, bien, c'est tout, d'être propre.
Non, ça peut être sainte.
Alors, attendez, on va y arriver. Non, pas forcément.
Non, il veut dire que...
Alors, attendez, je vais expliquer. D'abord, il faut savoir, donc, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, c'était en Nissan. Attendez, on va faire un historique rapide. Les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, on était en Nissan. D'accord. On est sortis d'Égypte en Nissan, on a reçu la Torah en Sivan, d'accord, donc 50 jours plus tard. Ensuite, les Bnei Israël, donc Moshe Rabbeinu est monté pour aller chercher les tables de la loi. Il descend 40 jours plus tard, ouais. On avait fauté. D'accord? Il est revenu, il est remonté 40 jours pour demander le pardon. C'était Rosh Chodesh Elul. D'accord? Et il est remonté une deuxième fois, donc il a obtenu le pardon. Il a obtenu le pardon Rosh Chodesh Elul, d'accord? Il est resté 40 jours, et là, il a reçu les deuxièmes tables de la loi. Très bien. Et là, Akadosh Baruch Hu, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, bon, bah maintenant, on va construire le Mishkan. Et c'est le Mishkan qui va pardonner la faute du Vaudan. La raison principale du Mishkan, c'est pour le pardon de la faute du Vaudan. Donc, on était en Tishri. D'accord? On a construit le Mishkan, on a tout préparé. Le Mishkan était prêt.
Après Kippour.
Le Mishkan était prêt. Écoutez bien. Rosh Chodesh Kislev. D'accord? Rosh Chodesh Kislev, ça veut dire un mois et demi plus tard. Un mois et demi, tout était prêt. Mais on attendait le signal de Dieu.
Un mois et 20 jours.
D'accord? Voilà, un mois et demi. Donc, un mois et demi à peu près plus tard. Mais on attendait le signal, la Kadosh Baruch Hu, pour inaugurer le Mishkan. Dieu a dit non, on n'inaugure pas. On attend. On a attendu jusqu'à quand? Jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. C'est-à-dire que c'est passé combien de temps? D'accord? Un an depuis la sortie d'Égypte, il s'est passé six mois. D'accord? Alors, pas exactement six mois, mais ça veut dire que, depuis le moment où on a pris de l'huile d'Ebné Israël, non, pas les olives, de l'huile, justement. Il s'est passé un an, au minimum, mais depuis le moment où on l'a demandé au Bnei Israël, il s'est passé combien de temps? 5 mois à peu près. D'accord? Pourquoi? Comment ça se fait? De là, on voit, explique le rabbi, que, la zrizout qu'on doit avoir, l'empressement. Que même si ça ne nous concernait pas, parce que les Bnei Israël veulent dire, bon, ça va, on n'a pas encore construit le Mishkan, qu'est-ce qui nous prend la tête, entre guillemets, on va attendre, ça va, on a le temps. Non, on va au Moshe Rabbeinu, il leur a dit, on traîne pas. Même si le Mishkan n'est pas construit, si on a quelque chose qu'on peut récolter tout de suite, on le fait tout de suite. Parce que Zrizim, Magdimim, le mitzvot, on s'empresse toujours pour faire une mitzvah. D'accord. Maintenant, je vais faire Rashi. Vous allez voir qu'on va avoir un enseignement extraordinaire dans Rashi. Et c'est ce que j'ai expliqué, donc l'huile d'olive pure, d'accord, qu'est-ce qui est pur? Est-ce que c'est l'huile ou l'olive? Est-ce que tout le monde a compris la question déjà?
Oui, bien sûr.
Bon. C'est pas un jeu, hein, c'est une vraie question.
Est-ce que c'est l'huile d'olive pure ou une olive?
Bonne question. Au revoir.
Alors que l'huile, la manière dont elle va être traitée.
Est-ce que c'est l'olive qui doit être parfaite? Ou est-ce que c'est le résultat qui doit être parfait? Alors, on va développer. On va lire d'abord Rashi. Ve'atat et Tzavé. D'accord. Le premier Rashi. Ça c'est un détail. Cette machloquette, on l'a déjà étudié l'année dernière, enfin au cours de vendredi soir. Mais là, vous allez voir le commentaire du rabbi dessus, extraordinaire. Ve'atat et Tzavé. Zar. Donc zar, ça veut dire pur. Donc la question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce qui doit être pur? Est-ce que c'est l'huile ou l'olive? Non, zar, ça veut dire pur. C'est-à-dire propre, pur. Attendez. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit pur, ça veut dire quoi? Ça veut dire blishmarim. Blishmarim, ça veut dire quoi? C'est quoi les shmarim? Les shmarim en hébreu, c'est les, comment on appelle ça? Les dépôts. D'accord? On devait prendre de l'huile sans dépôt. D'où il s'est arraché? Où c'est écrit? D'accord? D'où il s'est arraché? Pour prendre de l'huile sans dépôt. C'est pas écrit? Alors, attendez. Kemo sheshaninu bimnachot. Comme c'est enseigné dans la Gemara Mnachot, que Megargero Berosh Azaït, qu'on devait prendre donc l'olive Berosh Azaït en haut de l'olivier. Attendez, quel rapport avec les dépôts?
Quel rapport avec les dépôts?
Qu'est-ce que ça change? Parce qu'elle est en haut de l'olivier, alors il y aura moins de dépôts. Quel rapport? Alors écoutez la réponse de Ibn Ezra. D'accord? Ibn Ezra, il dit non. Ibn Ezra, il dit, moi je suis pas d'accord avec Rashi. Il dit, pour moi, d'accord? Qu'est-ce qui doit être pur? C'est l'olive qui doit être pure. Parce que vous avez vu que Rashi s'est focalisé sur le produit. Rashi a dit, qu'est-ce qui doit être pur? C'est l'huile. L'huile qui doit être sans résidu. Bon, c'est-à-dire que l'huile, le produit chimique doit être parfait. Peu importe par où t'es passé. Moi, je veux un bon jus d'orange. Mais peu importe quelles oranges on a pris. Moi, je veux que mon jus d'orange, il soit propre, il soit bon. Il n'a rien à faire quelle orange on a pris. Même si elle était écrasée, l'orange que j'ai pris. Ça, c'est Rashi. Rashi, je suis comme
logique.
Ça.
Attendez,
on va voir. C'est pas simple. Rashi, ça, c'est Rashi. Ibn Ezra dit non. Ibn Ezra dit, Shemen Zaizar, de l'huile d'olive pure. Qu'est-ce qui doit être pur? C'est l'olive. Ça veut dire quoi, que l'olive doit être pure? Ben, ça veut dire qu'on doit chercher les meilleures olives. On va aller voir l'agriculteur, maintenant tu me donnes la meilleure olive que tu trouves. Pour le Beth Amikdash, je veux le meilleur. D'accord? Alors, la question qu'on peut se poser ici, qu'on va essayer de comprendre, c'est quel est le point de la machloquette entre le Ramba, entre Rashi et Ibn Ezra. Pourquoi un il dit que c'est le livre qui doit être pur et l'autre il dit que c'est l'huile qui doit être pure. Alors, une des réponses qu'on peut expliquer, mais après on va développer un peu plus, c'est tout simplement, on vient d'expliquer selon le Ramban que les Bnei Israël ici n'ont pas touché aux olives. Parce qu'ils étaient dans le désert. Donc c'est pour ça, Rachid te dit, je vais bien accepter ce que tu dis, Ibn Ezra, que qu'est-ce qui doit être pur, c'est l'olive, mais ils n'ont pas touché aux olives là. Pendant 40 ans, ils vont pas toucher à des olives. Donc il n'y a pas d'olive. Donc certainement que si Dieu donne un or qui nous concerne tout de suite, de quoi il parle?
De l'huile.
De l'huile.
Comme le bois.
D'accord.
Il n'y a pas de bois dans le désert.
Non, ça, le bois, c'est écrit.
Non, le bois, ils l'ont pris de
on pris,
c'est écrit, ils l'ont pris des palmiers.
Non, mais ça veut dire que c'est une question qu'on se pose à chaque fois. D'où ça vient? Non.
Pourquoi?
D'accord.
Pourquoi ce serait différent du bois?
On l'a amené.
Oui.
Très bien.
Le bois qu'on trouve dans le
voilà pourquoi, voilà pourquoi. Très bien. Tu as un bon point. C'est un très bon point. Voilà pourquoi Rachid n'est pas d'accord. Messieurs. Voilà pourquoi Rachid n'est pas d'accord avec Ibn Ezra. Très simple. Si Ibn Ezra, toi tu dis que qu'est-ce qui doit être pur, qu'est-ce qui doit être parfait, c'est l'olive. Je veux bien accepter ce que tu dis, qu'on prend les meilleures olives. Mais j'ai un problème. C'est que, moi, d'après moi, je pense comme l'Arpaniste qui dit que les Bnei Israël n'ont pas touché aux olives. Ils n'avaient pas d'olive. Ils ont touché à de l'huile. Donc, certainement que l'ordre, l'injonction d'Akadosh Baruch Hu concerne l'huile ou l'olive. Elle concerne l'huile, si elle concerne l'huile. Donc, moi, je pense que l'ordre ici était de damner de l'huile pure. Pas de l'huile qui est issue d'olive pure. Très bien.
Mais 40 ans dans le désert, ils ont réussi à amener assez d'huile avec eux pour pouvoir tenir 40
apparemment,
ans.
Apparemment, selon l'Arpanie,
du... d'olivier.
Attendez. Combien d'huile il faut pour les mêmes droits?
Si c'est allumé tous les jours, il en faut.
Combien d'huile il faut? Combien d'huile il faut?
Ça doit pas être.
D'accord?
Oui, mais attends.
Selon l'Arpanie, on l'a amené d'Égypte. Combien d'huile il faut de la semaine?
Combien de temps? 40 ans, il faut qu'elle dure.
Et alors?
D'accord?
Et alors? C'était le seul point important. C'était Ibn Ezra allumé.
Non, mais il a raison. 40 ans d'huile d'olive.
Peut-être qu'après, on est parti en chercher. En tout cas, au début, ce qui est clair, c'est que selon l'Arpanie, au début, on a pris de l'huile déjà existante, qui était là.
Ils ont pensé prendre l'huile.
D'accord. Oui.
Ils avaient de l'huile avec eux.
Comme le bois.
Non, ça, tu le répètes encore une troisième fois. L'Arpanie ne le dit pas, ça. Tu peux le dire si tu veux, mais l'Arpanie ne le dit pas.
Non, mais le bois aussi, ils l'ont pris pour le construire.
Ils ne savaient pas. On ne leur a pas dit ça. L'huile, on ne leur a pas dit.
Je crois que c'était monnayé, l'huile, les épices et tout ça.
Écoutez bien maintenant comment le rabbi va expliquer. Écoutez bien comment le rabbi va expliquer le fond de la marloquette qu'il y a entre Ibn Ezra et Rashi. Parce que Ibn Ezra, quand même, il voulait dire quelque chose. Oui. Donc on a ici tout d'abord une première manière d'expliquer la marloquette, que je viens d'expliquer, c'est que c'est vrai que normalement, qu'est-ce qui devait être pur? C'est lui, c'est l'olive, comme Ibn Ezra dit, et c'est ce qui rentre le mieux dans le texte. Mais selon Rashi, pourquoi Rashi va dire que c'est pas l'olive qui est pure, mais c'est l'huile? Parce que Rashi a un problème technique, dans le désert, on n'a pas d'huile, donc certainement, l'injonction de Dieu concerne l'huile. Voilà pourquoi, selon Rashi, qu'est-ce qui doit être pur? C'est l'huile. D'accord. Maintenant, écoutez comment le rabbi va expliquer le fond du problème. Et quel est le fond de la marloquette ici qu'on a entre Ibn Ezra et Rashi? On sait que ce que Maïmonide nous répète plusieurs fois, il y a même un verset qui dit « Zekeli v'anvehu ». Zekeli v'anvehu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on donne pour Akadosh Baruch Hu doit être beau. D'accord? Zekeli v'anvehu. Nave, ça veut dire beau en hébreu. Et de là, d'accord, je vous dis les mots de Maïmonide qui dit comme ça, il dit « Kol davar shehu leshem akel atov ». Alors ça rime un petit peu. Il dit donc toute chose qui est pour notre bon Dieu, c'est intéressant, c'est-à-dire on ne retrouve pas avant la trace de bon Dieu, Akel Atov, Sheyeh min Hanna'e ve'atov. Tout ce qui est pour notre bon Dieu, d'accord, doit être de, en hébreu, donc de ce qui est bon. C'est-à-dire, en d'autres termes, on doit amener à Kadosh Baruch Hu de ce qui est meilleur. D'accord. Ça veut dire que l'esthétique est très importante. Quand on amène quelque chose à Kadosh Baruch Hu, la kavana est importante. Bien sûr que la cavana est importante, mais on doit aussi amener quelque chose de beau à Kadosh Baruch Hu. Ça doit être un kiff pour nous de donner quelque chose de beau à Kadosh Baruch Hu. Encore plus beau que chez nous, comme ce qu'il dit Maïmonide. Très bien. Maintenant, écoutez bien la question du Rabbi. Rabbi dit d'accord, tu me dis que ça doit être beau. Mais qu'est-ce qui doit être beau? Tu me dis que ça doit être beau, mais à quel stade ça doit être beau?
Oh, il est malin.
Là, vous allez voir que dans la psychologie, ça correspond à deux manières de faire les choses chez les gens. Vous avez des gens qui vont pas vous livrer un produit, qui vont pas vous livrer un beau produit. Du style, bon, tu prends le meuble qui t'a préparé, il est pas très beau. Mais il a mis son cœur à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il a pris le meilleur bois qu'il peut trouver, les meilleurs vis, tout.
La qualité.
Il a pris la qualité. Mais bon, mais le produit fini,
il est moyen. Esthétiquement, il n'est pas jeune.
Non. Encore une fois, l'esthétique du produit fini n'est pas belle, c'est d'accord ça. Mais le choix des matériaux était très bon. Et c'est comme ça, vous avez des gens qui ne savent pas faire un très beau produit esthétiquement fini. Ce qu'on appelle les finitions. Les finitions, ça, ils savent pas faire. Mais par contre, ils savent prendre les meilleurs composants,
matériaux.
D'accord, les meilleurs matériaux pour composer. Et quand ils montrent le produit, ils disent, mais tu vois pas, ça c'est tel bois, c'est tel vie, etc. D'un autre côté, vous avez des gens qui vont vous prendre des matériaux made in China, d'accord, ils vont vous prendre des... Mais, par contre, c'est des pros dans la communication, d'accord. C'est des pros dans la communication, ils vont vous donner un produit, il vous fait rêver, d'accord. Et explique le rabbi, il dit que c'est là la question en vérité, quand on analyse comme Maïmonide dit, c'est là le point de la machloket qu'on a ici entre Ibn Ezra et Rashi. Qu'est-ce qu'avait dit Ibn Ezra? Ibn Ezra avait dit que qu'est-ce qui doit être pur, c'est les olives. Selon Ibn Ezra, à quoi on accorde de l'importance, et c'est comme ça qu'Ibn Ezra voit les choses. Alors j'ai pas le temps de développer beaucoup, mais le rabbi il amène que plusieurs endroits on voit que Ibn Ezra, il analyse pas le produit fini, mais il analyse la préparation, le cheminement qui nous amène à la chose. Et il dit, moi, le produit fini, c'est pas mes affaires.
Le résultat, c'est Dieu qui me...
Ça, c'est le résultat, c'est Dieu. Moi, ce qui compte pour moi, c'est les matériaux que tu as utilisés, le choix des matériaux. Voilà pourquoi Ibn Ezra, comment il a compris le verset, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qui doit être beau? C'est l'olive. Non, Ibn Ezra, c'est l'olive. Ah, mais peut-être que j'ai pris une très bonne olive, mais que concrètement, ça m'a pas donné la meilleure huile. Il dit, Ibn Ezra, c'est pas grave. Moi, j'ai pris le meilleur matériau. J'ai pris le meilleur matériau. C'est là qu'il faut mettre le paquet. Ça, c'est Ibn Ezra. Rachid dit non. Rachid dit, ce qui compte, c'est le résultat.
Rachid parle pas de Ibn Ezra, là.
On va arriver tout de suite. Je vais vous montrer comment on a trouvé ça dans Rachid. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Rachid dit pas du tout. Rachid dit, ce qui compte, c'est quoi? C'est le produit final. D'accord? C'est le résultat final, ce qui compte. Ça veut dire que, peu importe si les matériaux qu'on a utilisés ne sont pas au top, si le produit final a toutes les qualités qu'on attend et qu'il est le plus beau possible pour Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on doit prendre. Alors, comment je vois ça dans Rachid? Écoutez bien, on va relire Rachid ensemble. Regardez, vous voyez comment c'est extraordinaire, comment dans 2-3 mots de Rachid, on découvre des trésors extraordinaires. On relit Rachid. Va à tête et te savez, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Zar pur, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Blishmarim. Donc sans équivoque, Rachid nous montre que qu'est-ce qui doit être pur, c'est l'huile. D'où il a tiré ça, Rachid? Kmo, shishaninu bimnachot, comme on enseigne dans la Gemara mnachot, megargero, berosh azayit. Que d'où on prend l'olive, on la prend en haut de l'olivier. Alors Rabbi pose une question très simple, il dit, attends. En haut de l'olivier, peut-être que c'est des olives qu'ils ont bien mûries, mais c'est les olives qui ont le plus été picorées par les oiseaux.
Ah oui.
Donc elles sont pas belles. On est d'accord ou pas?
Ouais.
Donc elles sont pas belles. Mais par contre, comme c'est les olives qui ont pris le mieux le soleil, donc le produit fini sera extraordinaire. Mais est-ce que c'est des belles olives? Pas du tout. C'est pas des belles olives. Tu veux les belles olives, il faut les prendre où? À l'intérieur. Mais si tu prends les olives de l'intérieur, l'olive sera belle, mais étant donné que l'olive n'a pas bien mûri, elle n'a pas pris le mieux le soleil, donc l'huile ne sera pas au top. Et là, on voit la preuve de Rachid. C'est-à-dire, comme Rachid en trois mots. Megargero, Berosh, Azaït. Où on devait aller? La Gemara Mnachot.
Dans la Gemara, c'est...
Ah oui. Qu'est-ce que dit la Gemara Mnachot? Non, mais ça, c'est le Rabbi qui développe ça de Rachid. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara Mnachot? La Gemara Mnachot a dit que où on allait chercher l'olive? En haut de l'olivier. Alors, Rabbi disait, mais attends, mais en haut de l'olivier. Les pigeons, ils touchent là-bas. Donc, si les pigeons, ils touchent là-bas, ça veut dire que c'est une olive, on a exactement l'antithèse de Ibn Ezra. On a une olive qui n'est pas belle, mais qui a des caractéristiques extraordinaires. Qui fait de la super huile parce que c'est l'huile qui a le mieux mûri. Celle qui a pris le plus le soleil. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Quelle olive on doit prendre? C'est celle-là qu'on doit prendre. Ah, elle est pas belle. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est le produit fini.
Exactement.
D'accord? Ça ne veut pas dire que la fin justifie les moyens, hein, parce que je... D'accord? Chassé shalom. Mais ça veut dire que selon Rachid, et je pense que Rachid, ça correspond un petit peu à notre manière de voir les choses en galoute, on doit faire ce qu'on peut. D'accord? Mais il faut s'efforcer d'avoir un beau produit, c'est ce qui compte. D'avoir un beau produit, ça veut dire que même le produit fini soit beau. Même si les étapes pour arriver au produit n'étaient pas très... Bon, ça n'a pas pris le top. Si on a un beau produit, c'est ce qui compte. Voilà, on a eu ici, selon le rabbin, on a expliqué le fond de la marloquette entre Rachid et le Ibn Ezra. Donc pour nous, c'est l'huile qui doit être pure. D'accord? Selon Ibn Ezra, c'est l'olive qui doit être pure. Voilà, on a compris d'où Rachid a tiré ça.
Quand tu dis pour nous, parce qu'on n'a pas pris l'enseignement d'Ibn Ezra,
parce que la majorité de mes farchim suit l'avis de Rachid. Ouais, c'est l'avis de Rachid. Parce que la Gemara n'en parle pas.
Et tu penses que Ibn Ezra, il va apporter une huile avec des défauts tout?
Ça le dérange pas. Ça le dérange pas? Non.
Vas-y, dis-moi. Il a cherché l'olive, la plus mûre, la plus...
Non.
J'arrive pas à voir la série de la marque.
il va... des moyens propres.
Bah, l'intérêt de la marloquette, c'est que concrètement, c'est comme vous avez en cuisine. Alors, voilà, on va parler à Joe, comme vous avez en cuisine. À quoi il faut accorder de l'importance?
Bah, au produit.
D'accord? Attendez, pas forcément. Il y en a qui vont vous parler de la qualité de nos matériaux. Ils te présentent un produit, il est naze, il est pas beau le produit. Mais tu dis, nous, la qualité de nos matériaux.
Ouais, les trucs bio, oui, et tout ça.
Non, 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 pas les trucs bio.
Non, mais en ce moment, c'est vrai, ils sont pas très jolis. Et ils te disent, ouais...
C'est le résultat final.
Non, pas forcément. Ibn Ezra dit non. Ibn Ezra dit, ce qui compte, c'est le choix. Vous avez, vous voyez les choses comme Rachid. C'est raison.
Tout le monde.
Non, tout.
Lui, il n'avait pas
été
pourri. Il y a des gens qui ne voient pas les choses comme ça. Il y a des gens qui ne voient pas... Il y a des gens qui vous disent, nous, pour moi, le plus important, c'est le choix du matériel.
Tu dois être à Lyon.
Attention, ça ne veut pas dire que... Je vais bien expliquer, attendez. Je voudrais finir ce point-là. Ça ne veut pas dire que Ibn Ezra... Ça ne veut pas dire que Ibn Ezra... Que Ibn Ezra nous dit qu'il faut livrer un produit sale. C'est pas ce qu'il dit, Shalom. C'est pas ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que... C'est évident, ça. La question qu'on se pose, c'est comme ça. Moi, j'ai le choix entre une olive qui a extrêmement bien mûri, mais qui n'est pas belle. D'accord? Et entre une olive qui a bien mûri, d'accord? Qui a bien mûri... Mais que, donc qui a bien mûri, mais qui a pas mûri aussi bien que celle qui est au-dessus de l'olivier, mais par contre, cette olive-là, elle est propre. Tu la prends, elle est clean. D'accord? Attendez, deux secondes.
Là, on veut de l'huile, on veut pas de l'olive.
J'ai compris.
On veut allumer quelque chose, on a besoin de l'huile pour allumer.
Vous avez raison, c'est vrai? Mais les deux allument.
On va allumer un feu avec une olive.
Mais l'olive aussi, on va la prendre. L'olive, même...
C'est l'origine.
Non, encore une fois, je répète. Il faut pas qu'on passe à côté de ce point. Tout le monde est d'accord qu'on va prendre de l'huile et qu'on va la presser et qu'on va en faire... Enfin, une olive, qu'on va la presser et qu'on va faire de l'huile. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. La question qu'on se pose, c'est, j'ai le choix entre deux options. Soit je prends l'olive qui est en haut de l'olivier, qui n'est pas belle, mais qui a des caractéristiques top.
Et j'en fais une huile extraordinaire.
Mûrie, tout ce que tu veux. Soit je prends une olive qui est mûre, mais qui n'est pas aussi mûre que celle qui est en haut. D'accord? J'en fais une huile qui est pure, mais elle ne sera pas aussi belle que si j'avais pris l'olive d'en haut. Ça veut dire, soit je mets l'accent sur le choix des matériaux, et qu'au moment du choix, je prends les meilleurs matériaux possibles, soit je mets l'accent sur le produit fini. D'accord. Et ça, c'est deux manières de voir les choses.
En gros, pour
complètement
faire une mitzvah, c'est pour faire une mitzvah. Est-ce que tu prends la cabana, machin, ou tu prends des moyens de
voyager, ou direct? Ça paraît tellement évident que l'avis de Rachim est très facile dans l'en suivi, parce que voilà, c'est le produit. L'autre avis, c'est de se dire une olive qui est pure, pourquoi l'autre elle est moins pure? Elle est pas moins pure, elle est moins belle peut-être, mais pas moins pure.
Elle est
moins belle peut-être, mais elle est pas moins pure pour autant.
Elle est plus belle, elle est belle.
Ce que ça paraît, voilà, ce qui veut dire, c'est que ça paraît évident que l'avis de Rachim
est pas si évident que ça. D'ailleurs, il ne le dit pas.
On a du mal à concevoir l'avis de
Rachim.
Il faut que quoi? Il a demandé quelque chose de zar. Zar en hébreu, ça veut dire pur. Ça veut dire propre.
Pour l'huile, on dit vert.
Vous l'avez compris comme ça. Vous l'avez compris comme Rachid.
Ah, non, mais c'est le mot utilisé dans le monde entier pour dire pur, c'est vierge. Hein.
Non, Virgine, oui, mais attendez. Je vais bien expliquer. Il faut savoir que dans le pshat, le commentaire du Ibn Ezra rentre beaucoup mieux dans le pshat.
Pur en hébreu, ça ne dit pas zar.
Deux secondes.
Zitaor.
Zar en hébreu, ça veut dire limpide, c'est-à-dire propre.
Oui, c'est vierge.
Attendez. Je veux que ce soit clair. Dans le pshat, dans les mots, le commentaire du Ibn Ezra rentre beaucoup mieux dans les mots. De dire que c'est le livre qui doit être propre.
Tu traduis par pur, c'est pas bon?
Oui, je traduis.
Pur, c'est ta orgue.
Nahon, je traduis comme Rachid, oui, pas de problème.
Mais vierge, c'est zar.
Zar, c'est-à-dire pur,
dans la qualité.
Pur, la qualité, ça se dit vierge.
Oui.
Virgine, c'est-à-dire sans rien dedans. Voilà.
D'accord,
sans
mais ça, là, vous expliquez directement comme Rachid a compris.
Pour l'huile, on n'utilise pas le mot pur.
Ah, c'est son
pur. C'est pas marqué pur.
Je vais vous donner un exemple.
Mais marqué huile d'olive vierge.
Je vais donner un autre exemple. Par exemple, la Torah nous a demandé dans la paracha la semaine dernière. Il est où le Made in China? La Torah nous a demandé la semaine dernière de choisir de Atzé Shittim. Atzé Shittim, c'est du bois de cèdre. Je n'ai aucune idée du rendu du bois de cèdre quand on fait des meubles avec. Peut-être qu'il y a d'autres bois. Attendez, peut-être qu'il y a d'autres bois qui donnent un meilleur rendu. Là-bas, Dieu a dit, je veux ce bois. Donc c'est le matériau qu'on doit choisir.
Oui.
Vous comprenez? Là, le problème, la marque qu'il y avait entre Ibn Ezra, c'est que est-ce qu'on doit mettre l'accent sur le produit fini ou est-ce qu'on doit mettre l'accent sur le choix des matériaux? Parce qu'attendez, attendez une seconde. Le choix des matériaux est très important. Parce qu'une personne, lorsqu'il va faire les courses, d'accord, ce qui compte, c'est pas seulement la pkaïla qui va manger.
Non, mais là,
c'est
là, les pois chiches qui va. Quand tu parles du bois de cèdre.
La grosseur des pois
chiches.
C'est les haricots, c'est les haricots, c'est quoi?
Non, non. Quand tu parles du bois de cèdre.
Ils vont me lapider, ils vont me lapider.
Faut pas rentrer dans ces problèmes-là.
Désolé, désolé.
Mais vu quand tu dis bois de cèdre. Mais comme tu dis, huile d'olive, cèdre, c'est d'où vient le bois, de cet arbre-là. Quand tu dis huile d'olive, ça vient d'un tel fruit.
Oui.
Donc, là, c'est vrai, bois de cèdre, huile d'olive. Là, il y a quelque chose de plus.
Zahr, zahr.
Zahr, pardon.
Zahr, c'est
au niveau culinaire, c'est vierge.
C'est bien. D'accord.
Comme le diamant. Ça veut dire, on dit, quand on dit blanc-bleu, c'est vierge.
C'est vierge. Bon.
Diamant, c'est-à-dire blanc-bleu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune.
Il n'y a rien, il n'y a aucune.
Aucun crapaud.
Vous prenez de l'huile avec des défauts. Vous la filtrez, elle devient pure.
Bien sûr,
oui.
Voilà.
Mais elle ne devient pas aussi pure que
c'est rachide. Non.
Celle que tu as avec des dépôts, que tu as, machin, elle n'est pas pure comme ça. C'est pas la même huile.
Il ne connaît pas la production.
Mais non, mais je ne sais pas. Voilà la culture de l'olive.
C'est pas des centunes, hein. Dans l'Italie, c'est la question.
C'est quoi la question, vas-y.
Bien sûr.
Dis-moi la question.
Mais la question, c'est que tu prends de l'huile qui est avec des dépôts.
Tu l'as nettoyée. Elle sera propre.
Elle sera propre.
Oui.
Donc voilà.
Mais c'est pas ça la question qu'on se pose.
Non.
C'est le choix de l'olive.
Est-ce qu'elle est consacrée? Est-ce qu'on peut la consacrer au?
Mais bien sûr.
Voilà.
Elle est cachère. C'est évident.
On lâche l'origine n'importe peu.
Mais c'est ce qu'il t'a dit.
Non.
C'est la marque.
Il viendra dit non.
Je l'ai dit Rachid.
Oui. Voilà.
L'origine de l'olive n'importe peu.
Parce que forcément, si cette olive a été picorée, forcément, elle aura plus de résidus.
Donc l'origine n'importe peu.
Voilà.
C'est le résultat.
Ça c'est Rachid. Mais Ibn Ezra dit non. Ibn Ezra dit l'origine est très importante.
Mais Ibn Ezra, c'est quel siècle?
C'est comme quand vous achetez un produit et que vous écrivez origine France.
C'est 12.
C'est 12. Donc tout
ouais. Juste après Rachid. Quand vous achetez un produit, il vous marque origine France.
Ouais.
Qu'est-ce que ça change quoi, origine France? Ah, c'est Ibn Ezra, ça.
Tu n'as jamais assisté à.
Hein? Mais origine France. Qu'est-ce qu'on en a à faire, origine France?
Meilleur.
Oui, mais.
Non, c'est pas forcément le cas, hein.
Oui, mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire transposer ici, maintenant, de nos jours?
Transposer de nos jours, c'est que Ibn
Ezra. Sur les mises vacances,
j'ai compris. Transposer de nos jours, ça veut dire que Ibn Ezra te dit, ce qui compte, c'est la cavana que tu as eue au moment que tu as des matériaux.
À préparer la mise
vacances. Oui, au moment où tu prépares la mise
vacances. Et tandis que d'autres.
Rachid te dit non. Ce qui compte, c'est pas la préparation, ce qui compte, c'est l'orée du produit fini.
C'est-à-dire la mise vacances elle-même. Peu importe la cavana qu'on a mis à la préparer.
Par exemple, tu prépares une souka, voilà, donne un autre exemple. Par exemple, tu prépares une souka.
Tu mets 10 ans à
Ibn Ezra te dit, ce qui compte.
C'est d'avoir fait la mise.
Tu vas chez Bricorama, tu prends le meilleur bois qu'ils ont.
Ouais.
Et tu mets ton
et
mieux
tu
après.
Tu mets 4 heures à la mise.
Rachid, je m'en fiche du bois, prends des plaques toutes fraîches, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ta souka soit belle.
C'est ça, là.
On est mignon. Rabbi Chaim Ben Kashomer, à 5 ans, on va encore être Israël, puis Rabbi Chaim Ben Kashomer, on va être Israël, puis Rabbi Chaim Ben Kashomer, on va être Israël, puis Rabbi Chaim Ben Kashomer, on va être Israël.